Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Allez, aujourd'hui, nouvel épisode en partenariat avec Finishers, le calendrier de course qui vous permet de trouver votre événement facilement auquel vous allez pouvoir participer pour préparer tous vos meilleurs objectifs durant votre année sportive. Et aujourd'hui, je suis avec Julie qui organise le trail du lac du Paladru et qui organise ça depuis un bon moment maintenant. Hein. Et donc, je suis très content parce que j'avais entendu parler de ce trail, mais comme ça, de nom. Parce que quand tu t'intéresses un petit peu à tous les événements qui existent, tu entends pas mal de projets comme ça qui flottent dans le paysage. Et le trail du lac du Paladru, j'en avais déjà entendu parler, donc je suis très content de te recevoir, Julie, pour que tu nous racontes un petit peu comment se déroule cet événement, son histoire, ses particularités, ce que vous mettez en place. Voilà, je suis très content de te recevoir. Est-ce que tu vas bien aujourd'hui, Julie ?
Ça va, merci. Toi aussi, j'espère.
Eh ben écoute, ça va super bien, tu vois, je reviens j'étais 2 semaines en vacances là pour les vacances scolaires et là c'est la rentrée aujourd'hui et il fait super beau en Bretagne, comme d'habitude, certes diront les plus chauvins d'entre nous, mais c'est pas vrai, ça n'a pas été toujours le cas là depuis le début d'année, donc mais ça va très bien. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ?
Eh bien, Julie Hérault, du coup, donc j'organise effectivement... le trail du lac de Paladru depuis de nombreuses années, puisque c'est la 9e édition. Et voilà, donc parmi d'autres, j'organise d'autres événements aussi. Et à côté de ça, j'ai un autre métier, puisque je suis consultante en développement durable dans le secteur du tourisme. Voilà.
Ok, super intéressant. Du coup, ça veut dire que toi, là, en ce moment, tu es vraiment en plein dedans, dans tout ce qui est organisation d'événements avec... une composante éco-responsable qui est la plus verte possible. Alors, comme on dit, hein, l'événement le plus green qu'on puisse organiser, c'est celui qu'on n'organise pas. Mais alors, comment est-ce que en 9 ans, ça va être ma première question, ça. Comment est-ce qu'en 9 ans, tu as vu le côté éco-responsable des événements, du moins de celui du lac du Paladru, évoluer?
Ben, moi, tout d'abord, cette composante, elle fait partie de ma formation et de ma vie professionnelle. Donc, je la connais depuis très, très longtemps. Et après, du coup, on a essayé au sein de l'organisation de la mettre en place sur l'événement. Donc, c'est-à-dire que, on se rend bien compte qu'effectivement, quand on fait venir du monde volontairement sur un site qui plus est un site naturel, qu'il y a beaucoup de composantes à prendre en compte. Il y a beaucoup de problématiques qu'il faut tenter de régler. Alors, j'aime pas trop le mot durable parce que pour moi, c'est pas durable, c'est plus responsable que durable. Il faut essayer de faire les choses de manière la plus responsable et sensée parce que c'est du bon sens en réalité. Donc, on s'est attaqué bien sûr au transport, on s'est attaqué à ce sujet de on fait consommer les gens, mais comment on les fait consommer et qu'il ne faut pas chercher à les faire surconsommer, au contraire. On a toujours entendu dire les coureurs, mais nous, on n'en a pas besoin de tout ce que vous mettez dans l'inscription. Cette année, enfin, ça fait 2 ans maintenant, ça fait 3 ans qu'on y pense et ça fait 2 ans qu'on le fait. On a fait des modalités d'inscription en sortant le dossard, en mettant un dossard de base et puis en mettant tout le reste en option, c'est-à-dire que celui qui a envie et qui a besoin de quelque chose supplémentaire à son dossard, il est libre de le prendre ou de ne pas le prendre. Donc voilà, pour les quelques axes, et puis après travailler en local, en ultra-local, que ce soit avec nos partenaires ou avec nos fournisseurs ou nos prestataires, on essaye vraiment de rester le plus local possible. Nos partenaires principaux, c'est des gens qui sont à maximum une quinzaine de kilomètres de nous, donc on essaye de travailler aussi en local.
J'ai vu hein, que sur votre site là, que vous avez mis en place un système de covoiturage. Est-ce que c'est la première année que vous le testez? Et sinon, quel est votre retour d'expérience sur ces modalités? Est-ce que les coureurs l'utilisent vraiment en pratique?
Alors, c'est pas la première année. C'est pas la première année qu'on le fait. Certains, oui, l'utilisent. Ils sont habitués. Pas tout le monde. On a un projet pour travailler aussi avec le département pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut mettre en place à l'avenir des navettes qui partiraient des grandes villes pour essayer de trouver le système. Alors, comme tout le monde, on n'est pas les seuls, hein, mais il y a beaucoup d'événements qui tâtonnent, qui essayent sur ce sujet-là. C'est compliqué parce que les courses partent pas au même moment, parce que tout le monde ne finit pas à la même heure, tout le monde ne vit pas l'événement après sa course de la même manière, donc c'est compliqué. Donc effectivement, nous, notre problématique, c'est qu'il y a peu de transports qui arrivent jusqu'à notre lieu de départ. On n'est pas proche d'une gare, on n'a pas beaucoup de bus qui viennent jusqu'à nous, surtout le week-end. Donc le covoiturage, c'est ce qui nous semblait le plus pertinent. Et effectivement, ça fait quelques années qu'on essaye. Ça fonctionne. Pas autant qu'on l'aimerait. Mais voilà, donc on essaye de trouver des leviers pour faire en sorte que ce soit de plus en plus efficace au fil du temps. Et cette année, on va faire une grande enquête après la course, justement avec le département, pour vraiment affiner encore plus les problématiques et les besoins des participants pour l'année prochaine, tenter des nouvelles choses qui peut-être correspondraient encore plus aux besoins des participants.
Ouais, sur les événements que j'organise, ma phrase fétiche, c'est « cette année, c'est comme ça, l'année prochaine, ce sera mieux ». Et effectivement, hein, il faut tenter, mettre des petites graines. C'est pas grave s'il y a peu de coureurs qui utilisent un service qu'on met en place la première année. Peut-être qu'il y en aura un peu plus l'année suivante et encore un peu plus l'année d'après. Et effectivement, le sujet du covoiturage, c'est un vrai sujet. Parce que en plus, je trouve que ça crée des connexions avant l'événement. Et finalement, l'événement, il commence bien avant pour ceux qui utilisent le système de covoiturage. Donc, je trouve que c'est un bon système augmenter le temps de l'événement, en fait.
On a mis en place des reconnaissances et on a beaucoup de demandes pour les reconnaissances, notamment de personnes qui sont sur le bassin lyonnais et qui voudraient venir et du coup qui cherchent à se connecter aux autres qui potentiellement partiraient aussi de Lyon pour nous rejoindre. Donc c'est vrai que ça touche quand même du monde, mais après il faut réussir à trouver le moyen d'informer tout le monde et de mettre en relation tout le monde c'est pas non plus plus simple.
Non, c'est sûr, c'est pas une mission des plus simples, mais c'est une des missions les plus vertueuses, hein, parce que le transport, c'est l'impact carbone le plus fort sur un événement, et du coup c'est le sujet vraiment prioritaire à traiter, mais bon, c'est pas toujours simple évidemment. Et du coup, comment je reviens sur la mise en place du dossard à tiroir, comment est-ce que ça a été accueilli par les coureurs la première année?
Alors très très bien. Tout de suite, ça a été bien accueilli. On a eu la première année, on a eu un petit peu quelques problèmes parce que alors nous, on a beaucoup de bouche à oreille et les gens ne vont pas spécialement certains consulter notre site ou nos réseaux sociaux, et on a eu un problème parce qu'on avait des personnes qui n'étaient pas informées, qui n'avaient pas été informées de ce changement de modalité d'inscription et qui du coup s'attendaient à avoir ce qu'ils avaient les années antérieures. Et donc certains ont été surpris, mais même ces personnes surprises, en réalité, ils ont compris et ils ont trouvé ça très intéressant. Et au final, on n'a pas eu de personnes qui auraient été mécontentes. Et au contraire, les gens sont très satisfaits. D'autant plus que tout le monde, financièrement, on connaît tous l'inflation, et que celui qui court énormément, il est satisfait de pouvoir courir à un tarif plus avantageux. Donc globalement, nous, on a un accueil de ce changement de modalité d'inscription qui est ultra positif.
Ah, c'est sûr que c'est les premières années, hein, qui sont les plus difficiles sur cette transition-là et ce système-là, mais effectivement, c'est tous les retours que j'ai, hein, sur le podcast et en off et ailleurs et machin. C'est dès que tu expliques en fait aux coureurs, tout le monde comprend et tout le monde l'accueille avec bonne intelligence. Et évidemment, et en fait, on a commencé direct dans le vif du sujet, mais on aurait peut-être pu commencer par présenter l'événement, dire un petit peu où il est et dégrossir les lignes de ce que tu as créé. Où est-ce que ça se situe ? Enfin, présente-nous l'événement.
Et ben du coup, alors, l'événement, bien comme il porte bien son nom, hein, puisqu'il est situé au bord du lac de Paladru, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, on est en Isère. Si on trace un triangle Lyon-Grenoble-Chambéry, bien on est au milieu. Le lac de Paladru, il est au milieu. On est dans un environnement où on n'est pas sur un massif alpin, on est dans ce qu'on appelle les préalpes, hein, alors avec énormément de collines. Et du coup, voilà, nous on s'est positionné, on est d'ici, donc on connaît parfaitement notre terrain de jeu, et on s'est positionné sur le troisième week-end d'avril depuis le début parce que, bah, justement, compte tenu de la typologie de notre terrain, on voulait se placer comme un trail de début de saison, voilà, pour se préparer pour les plus grands objectifs qu'il y a notamment sur notre territoire, sur l'Isère. Voilà, trail de début de saison. Pour se préparer ou alors pour se challenger, pour ceux qui le souhaitent aussi. Et au départ, une seule journée, on était sur le dimanche, et puis maintenant, depuis 4 ans ou 5 ans même, on est passé sur 2 jours. À présent, on est sur 5 distances, mais qui sont regroupées en 7 épreuves. Donc on a un ultra-trail qui fait 82 km pour 3000 mètres de dénivelé positif à peu près. Après, on a un 54 km pour 2000 mètres de dénivelé. On a un 32 km. On a un trail semi-nocturne qui part à 19h30 le samedi soir. Donc, on commence sans frontale et on finit avec une frontale, avec un magnifique coucher de soleil sur le lac, puisqu'on s'est mis du côté du lac pour avoir ce coucher de soleil. Et puis après, le dimanche, on a un 16 km qui se veut plutôt être un parcours d'entrée dans le trail, ou en tout cas une courte distance pour ceux à qui l'affectionnent particulièrement. Et puis on a 2 courses à étapes qui regroupent la course semi-nocturne du samedi soir et donc une des 2 courses du dimanche, c'est-à-dire le 16 ou le 32 km. Et puis à côté de ça, on a mis des randonnées, des marches nordiques pour aussi attirer les randonneurs, les accompagnateurs, et le samedi après-midi, on a des courses enfants qui vont cette année des enfants qui sont nés entre 2008 et 2020. Donc voilà un petit peu, et puis pas mal d'animations pour faire en sorte, vu notre terrain de jeu et notre localisation, c'est sympa de venir passer tout le week-end au bord du lac, et donc du coup on a voulu créer quelque chose pour que celui qui court, celui qui court pas, et bien, tout le monde puisse y trouver son compte et passer un chouette week-end avec nous. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire de ce trail.
Ouais, alors c'est hyper intéressant le côté venir en famille, découvrir le lac et ses abords pour profiter de ce déplacement pour réaliser une expérience familiale. Ça c'est quelque chose que vous avez mis en place à partir de combien de temps, et c'est qu'est-ce qu'il y a concrètement pour monsieur, madame qui ne court pas et qui voudrait aussi participer un petit peu à l'événement?
Alors ça, on l'a mis en place dès le début, puisque comme je te le dis, moi je travaille dans le tourisme à côté, donc pour moi ça paraissait évident que le lien tourisme-événementiel, il devait se faire, donc c'est quelque chose qu'on a mis en place dès le début. Il se trouve que notre territoire, il a une histoire, hein, puisque le lac a été habité pendant très très longtemps. Pour ceux qui connaissent, on connaît la chanson, le film, Les Chevaliers Paysans de l'An 1000, et bien c'est au lac de Paladru. Donc à côté de ça, on a plein de choses à faire. On a un nouveau musée, on a beaucoup de choses à visiter. Il y a les caves de la Chartreuse qui sont juste à côté. Donc on essaye toujours de proposer à ceux qui le souhaitent aussi, s'ils sont pas sportifs, ou en tous les cas s'ils veulent faire autre chose que de courir ce week-end-là, de leur proposer des choses à faire culturellement parlant à côté. Donc on a mis en place aussi un partenariat avec le Pays d'Art et d'Histoire du Pays Bornais, qui est la communauté de communes sur laquelle On est implanté avec des visites guidées du musée, avec des possibilités d'aller visiter les caves ou des choses comme ça. Ce qui fait que sur un week-end, tu peux courir, tu peux participer aux activités vraiment qui sont propres à l'événement et tu peux aussi aller voir un petit peu plus loin et te faire un week-end complet.
Et alors ça, c'est en ratio un petit peu pour me rendre compte de l'impact de ce genre de choses qui sont mises en place par les organisateurs. C'est à peu près combien de coureurs sur la totalité qui vont finalement profiter de tous ces services mis en place?
On est c'est pas énorme comme chiffre, mais on a à peu près 10% qui vont participer à ces activités là ou qui vont faire autre chose sur ce week-end à quelque chose près. On a beaucoup de locaux, on a quand même 40%, ce sont des Isérois, donc ils connaissent déjà le territoire et eux ils viennent juste profiter de l'événement, de leur course et un petit peu de ce qu'il y a autour. Mais sur les 25% de personnes qu'on aurait qui viendraient carrément en dehors de la région, oui, t'en as à peu près 10% qui viennent plusieurs jours, qui viennent un week-end ou même un peu plus, parce que du coup, on est toujours situé sur une période de vacances scolaires, plus ou moins proche de Pâques, ça dépend les années, puisqu'on fonctionne dans le troisième week-end du mois d'avril. Et on a à peu près 10% de ces... Oui, en total, ça fait 10% de l'ensemble des participants et qui correspondrait un petit peu à ces 25% de personnes qui viennent d'un petit peu plus loin et qui viennent aussi chercher ce côté touristique et connaissance d'un territoire qu'ils ne connaissent pas.
Et alors, c'est combien de coureurs l'ensemble de l'événement?
Alors, en termes de coureurs, cette année, on va arriver à peu près à 2700 coureurs. Et puis, à côté de ça, on a à peu près, selon la météo, entre 400 et 500 randonneurs. Et puis, on a à peu près 200 enfants qui viennent courir. Ça fait à peu près ça comme participants. Donc, on est à peu près à 3500 participants. Et puis après, on rajoute toutes les familles parce que du coup, on a un trail qui est très familial et... On vient passer le week-end, donc ça brasse un petit peu de monde. On est à peu près 5000 personnes sur le week-end à participer à cet événement.
C'est votre plafond ou vous souhaitez développer et grandir encore?
Non, on arrive à notre plafond là. On cherche pas. On a certaines courses qui ont déjà atteint qui sont complètes assez rapidement et qui ont atteint leur capacité maximale. On cherche pas à se développer plus que ça. Déjà parce que certaines courses, il y a déjà beaucoup de monde et on ne veut pas, par rapport au terrain, hein, au lieu où on passe, qu'il y ait plus de monde. Et puis, on reste sur un territoire qui, en termes d'hébergement, en termes de parking, ne peut pas accueillir davantage. Donc, le but n'est pas du tout de venir surfréquenter ou exagérer. Donc, on a quelques... petite marge sur certaines distances pour éventuellement augmenter le nombre de participants, mais c'est pas vraiment, c'est même pas du tout l'objectif.
Ouais, parce que là, donc tu disais, l'événement, il est le troisième week-end d'avril. Là, bon, on enregistre en mars. C'est complet.
Le 32 km aujourd'hui, il reste 12 dossards sur les 600. Donc oui, on a déjà le 32 km qui est complet. On a d'autres courses qui vont être complètes, une des courses à étapes aussi qui vont être complètes là dans les heures qui vont venir. Et puis on a aussi le 16 km qui va être complet très rapidement. Effectivement, il y a quelques courses qui sont très prisées. L'Ultra Trail, c'est seulement la deuxième année qu'on le fait. On l'a lancé l'an passé. Donc, c'est celui où il reste le plus de dossards parce qu'on est en phase. C'est une course qui n'est pas encore aussi connue que les autres, mais qui se remplit plutôt très bien. Donc, nous, on va sûrement être complet d'ici la fin du mois. On risque d'être complet sur quasiment toutes les épreuves.
Alors, comment est-ce que, alors surtout en Isère, hein, c'est un des lieux de France où il y a le plus d'événements. Comment est-ce qu'on se différencie des autres quand on est justement sur un territoire où il y a parfois. Alors, je ne sais pas combien il y a d'autres courses ce week-end-là dans le coin, mais il doit y en avoir pas mal. Comment est-ce que l'événement s'est différencié? Qu'est-ce qui a fait la différence selon toi?
Alors, c'est notre notoriété qui a fait la différence. C'est-à-dire que l'événement a plu tout de suite aux participants. On a pris soin de prendre aussi de prendre soin de nos participants et de les écouter, de faire les modifications qu'ils souhaitaient qu'on fasse et de les chouchouter autant qu'on pouvait pour qu'ils aient un bon souvenir de cet événement. Et ça a fonctionné et aujourd'hui on a une super réputation qui nous suit et dont on prend le plus grand soin. On est à l'écoute des participants. Quand un participant a un problème, bien qu'il nous écrive 2 jours avant la course ou 1 semaine avant la course, il a toujours une réponse. Et on essaye au maximum qu'elle soit positive pour lui, autant qu'on peut le faire en tous les cas. Et ça, c'est quelque chose que les gens apprécient grandement. C'est une ambiance familiale. On est dans la convivialité. On a une équipe de bénévoles qui est absolument fabuleuse. On a beaucoup de bénévoles sur l'événement et c'est quelque chose qu'on veut conserver. Donc cette ambiance, le fait d'être attentif aux gens et d'essayer d'en prendre soin a construit cette réputation qui aujourd'hui nous suit et qu'on veut absolument pas perdre. Et donc du coup on fait notre maximum pour ça. On a quasiment 75% des gens qui viennent grâce au bouche à oreille. Donc, voilà, c'est ça notre clé de la réussite de cet événement-là, et c'est ça qu'on essaye de conserver. Et voilà, toujours un questionnaire à la fin de l'événement pour qu'on ait un maximum de retours des participants. Et puis après, nous, on fait un gros travail sur ce questionnaire-là pour essayer de mettre en place tout ce qu'on peut mettre en place pour l'épreuve suivante, et les participants le voient. Ils voient qu'on essaye de faire des choses dans ce sens-là, et je pense que c'est très apprécié.
C'est vrai que ça, c'est un des éléments le moins mesurable. Hein. Les marketeurs ont horreur de ce truc, pourtant qui marche super bien, qui s'appelle le bouche à oreille, et qui est pourtant la première source d'inscription sur un événement. Hein. C'était une stat que j'avais eue au Miles and Sound Connect. Et le truc qui marche le mieux, c'est le bouche à oreille. Mais c'est celui qui est le plus long et le moins mesurable, mais qui repose uniquement sur l'expérience qu'ont passé les coureurs précédents. Et du coup, de se sentir écouté, entendu par les organisateurs, ça fait en sorte de partager en fait l'événement à ses amis en disant viens, tu vois, c'est sympa. Ok, très cool. Du coup, tu parlais des bénévoles. Combien ça représente de personnes l'organisation sur les 2 jours? Et puis comment est-ce que vous gérez un petit peu toute cette équipe de bénévoles?
Alors ça représente 250 personnes sur la semaine, hein, au-delà du week-end, parce qu'on les mobilise beaucoup plus tôt que ça. Donc 250 personnes qui sont constituées de beaucoup de personnes de l'association du Trail du Lac de Paladru, qui viennent bien sûr aider pour cet événement. Et puis après, il faut les trouver, hein, les autres, bien sûr. Donc on a beaucoup de locaux qui nous connaissent et qui viennent nous aider. Mais c'est vrai que c'est un sujet pour tout le monde, je pense, hein. Toute personne qui
le nerf de la guerre.
C'est que trouver des bénévoles, c'est compliqué. Et ça l'est aussi pour nous. On a quand même de la chance parce qu'on en a besoin de beaucoup de personnes pour nous aider et on arrive jusqu'à présent, en tous les cas, à trouver ces personnes qui sont motivées. Et puis après, pareil, hein, c'est un petit peu comme les participants, on a la même philosophie, hein, c'est-à-dire qu'un bénévole, si on veut qu'il revienne, il faut en prendre soin, il faut être attentionné, il faut être à l'écoute, il faut en prendre soin, et c'est aussi comme ça qu'on fonctionne. C'est pas qu'avec les participants, c'est aussi avec nos bénévoles. Donc on les mobilise avant, on fait une soirée avant avec eux, on fait une soirée après avec eux. Pendant l'événement, on essaye autant que possible de prendre soin d'eux. Et l'an passé, c'était compliqué parce que pour ceux qui ont fait le trail, ils doivent en avoir un excellent souvenir. On a une météo dantesque. Donc, quand on court, c'est une chose, mais quand on est bénévole, c'est une autre chose. Mmh. C'est vrai que ouais, c'était compliqué l'année dernière. Donc, on espère cette année qu'on aura un grand soleil avec nous tout le week-end.
Ah, c'est sûr que c'est plus sexy d'être bénévole sur un concert dans les loges de son artiste préféré que d'être à un carrefour de nuit sous la pluie dans le froid. Ça, c'est sûr que je comprends pour l'avoir déjà vécu. Ok, super. Et du coup, alors ça fait 9 ans que l'événement existe. Des difficultés, j'imagine que vous en avez eu quelques-unes. Est-ce que tu peux nous en partager, allez, une petite difficulté croustillante, un petit truc qui s'est passé? Tu parlais d'une année avec une météo un peu dégueu. Est-ce que tu as eu des troches, des petites histoires, je sais pas, tu as eu le Covid aussi, t'as connu ça?
Alors, nous, on a eu le Covid, effectivement. On a eu le Covid avec un confinement qui n'arrivait pas. Qui la décision n'était pas prise, on savait ce qui se passait quelque chose, mais on savait pas comment, ce qu'on allait devoir affronter, et donc du coup on avait une réunion, la veille de l'annonce du confinement, ou l'avant-veille, et donc du coup on avait un petit peu, on devait choisir hein, parce qu'on était fin mars et enfin mi-mars, je sais plus, entre mi et fin mars, et nous on avait beaucoup de dépenses engagées forcément. Hein. Puis avec un événement qui est le troisième week-end d'avril, et à cette fameuse réunion, eh bien, on avait décidé qu'on allait décider de la tenue ou pas de l'événement, et donc on a fait le choix d'annuler, et puis on a bien fait, puisque le samedi matin, on apprenait qu'on était confinés, et que de toute façon, le trail n'aurait pas pu avoir lieu, et donc on avait décidé d'annuler dans un premier temps, et on s'est laissé un petit peu de réflexion, et puis on l'avait reporté au mois de septembre, donc c'est quelque chose qu'on n'a pas dû annuler vraiment d'édition, on l'a reporté en mode restreint avec beaucoup beaucoup moins de participants, mais oui, le Covid a été une difficulté. Et puis après, nous, la difficulté, effectivement, elle est souvent en termes de météo, parce qu'on peut aussi bien être sur une période de chaleur et presque être... Enfin, pas presque, il y a des éditions où on a manqué d'eau à tous nos ravitaillements tellement qu'il faisait beau. Les gens se sont baignés comme si on était au mois de juin. Et puis, il y a d'autres années où, eh bien, en une journée, t'as de la neige, t'as de la grêle, t'as du vent, t'as de la pluie, t'as du soleil... Et là aussi, c'est sympathique à gérer en live. Et ça crée d'autres problématiques. Il te faut à un moment de la soupe sur un verre ravitaillement tellement qu'il fait froid. Et puis, le lendemain, il fait chaud et t'as pas pensé qu'il allait faire aussi chaud. Donc, il faut que tu gères les quantités d'eau en dernière minute. Donc, oui, la météo, c'est sûr que c'est une problématique. Voilà, après... on s'adapte, on est là pour ça aussi, et on fait avec. L'an passé, on a eu Thomas Cardin qui est venu sur l'événement, et du coup, on a dû gérer un Thomas Cardin qui a rattrapé notre l'ouvreur du parcours. Enfin voilà, il y a des petites surprises. Thomas Cardin qui est arrivé en vélo de Grenoble. Juste au moment du départ, parce qu'il était venu en vélo, et donc il est parti avec 6 minutes de retard sur tout le monde, et il est arrivé avec 12 minutes d'avance sur le temps qu'on avait prévu, et il a rattrapé notre ouvreur, donc il a fait aussi guise d'ouvreur sur le parcours. Donc voilà, c'est des petites choses qui laissent des souvenirs.
Ouais, on n'y pense pas toujours à ces flèches là qui arrivent, et ça c'est un truc que vivent les premiers à la réunion. Ils arrivent, les bénévoles sur les ravitaux, ils sont bien souvent, ils sont pas prêts, les trucs sont pas encore chauffés. Et pourtant ils savent hein, à la réunion à quelle heure vont arriver les premiers, parce que bon, le parcours il est quand même connu. Et mais non, tous les ans. Bon, c'est la réunion, c'est un peu particulier. C'est sûr, quand on est dans le peloton, on s'imagine pas les difficultés aussi des premiers devant qui ouvrent le parcours. Ah ouais. Très bien. Si je veux venir, moi qui connais pas du tout le terrain, bon, même malgré la météo qui est un petit peu fluctuante, je dois m'attendre à quoi comme type de terrain, type de surface, terrain un peu vallonné, c'est quoi le profil un petit peu de
C'est terrain vallonné. Les vainqueurs chez nous diront de tous les parcours qui sont roulants mais qui sont cassants. Et pour parler de Thomas qui était avec nous l'an passé, qui est pourtant d'ici, hein, qui connaît bien le terrain de jeu. Quand il est arrivé et que je lui demandais si ça a été, il m'a dit mais oui, mais en fait chez vous c'est terrible parce qu'il faut tout le temps courir, on ne peut pas s'arrêter, il faut tout le temps courir et c'est casse-pattes parce qu'on a un enchaînement de, ben, on est sur des collines donc ça descend, ça monte fort, c'est du plat montant et puis après c'est reparti, il y a une petite bosse et c'est ça, c'est roulant mais c'est cassant et en fait c'est une excellente préparation. Et c'est sur tous les parcours, c'est ce profil-là. Donc après, on a beaucoup de chemins, hein. On utilise beaucoup de chemins, on traverse aussi beaucoup de champs, on a quelques singles, mais on a un petit peu de route forcément, hein, parce que bah, y a des moments pour relier ces zones-là, t'es forcé de passer par un petit peu de route, mais donc on limite au maximum. Mais en tous les cas, si tu regardes le profil de chacune de nos courses, bah c'est vallonné et c'est un enchaînement de montée et de descente, ce qui fait que bah tu peux pas te permettre d'être inactif sur aucune partie du parcours et c'est casse-pattes quand même. Pas casse-pattes comme les courses qu'on connaît en Isère sur la saison estivale, c'est pas la même chose, mais il n'empêche que le cardio il monte et que, bah, que derrière il faut être actif quand même parce que tu t'arrêtes jamais d'enchaîner descente et montée.
Ouais, c'est ce que je regardais justement le profil de la course sur Trace de Trail et on est à 800 d'altitude maximum et le plus bas c'est 460 et des bananes.
C'est
vrai que ça fait pas mal de montées descentes. Alors au début quand je t'entendais parler, je disais tiens, ça me fait penser un petit peu à nos chemins qu'on peut retrouver en Bretagne, mais ça monte quand même un peu plus, hein.
Il y a des montées un peu plus loin. Ouais. On n'est pas haut du tout, mais c'est vrai que la typologie du lieu et la géographie du lieu fait que bah déjà on est autour d'un lac, hein, donc forcément tu as des collines autour, forcément, et puis qu'après bah, tu te balades de colline en colline et tu es dans les préalpes, hein, donc ça monte pas forcément énormément, mais par contre c'est absolument pas plat et tu n'as pas de plat, donc ça veut dire que. Voilà, c'est pas des dénivelés qui sont très importants. Pour un début de saison, c'est déjà des dénivelés qui sont quand même pas négligeables pour un mois d'avril. Donc il faut un petit peu se préparer. Et puis selon les parcours, il faut surtout se préparer à faire ces efforts-là sur l'ensemble du parcours et pas seulement sur une zone où tu aurais une énorme montée et après de la descente, du plat ou inversement. Nous, c'est pas comme ça. Il faut se préparer à ce que sur l'ensemble du parcours, eh bien, il faut toujours relancer parce que le terrain est comme ça.
Ouais, tu vois, je vois au kilomètre 40, là, tu es à 500, 560 et 41, 100. Donc en 1 km 100, tu as pris. T'as pris ouais, 200, pas loin de 200 mètres de D+. Ouais, il y a des bons pics quand même. Hein, ça doit être sympathique. moi, je cours pas là-dedans. Hein. Peut-être Thomas, oui, mais.
C'est une bonne préparation. Voilà, ça avance ta saison.
Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu voudrais parler pour concernant l'événement ou autre chose peut-être pour clôturer notre épisode?
Ben écoutez, faut venir découvrir notre beau lac déjà et puis l'événement pour se faire une idée et puis peut-être que ça vous donnera envie de revenir sur notre beau terrain de jeu. Et sur notre beau département. Donc voilà, j'invite tout le monde, ceux qui connaissent, à revenir et ceux qui ne connaissent pas, à venir nous découvrir et à venir découvrir notre beau lac.
Eh ben, chers auditeurs, si vous avez déjà participé au trail du lac de Paladru et que vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à partager cet épisode pour le faire connaître encore un peu plus. Hein, on l'a dit, hein, le bouche à oreille, c'est ce qui marche le mieux pour faire connaître les événements. Mais alors, par contre, il va falloir être rapide hein, parce que vous avez compris, hein, le trail est presque complet. Mais sinon, ce sera pour l'année prochaine, n'hésitez pas. Merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode, Julie, c'était très chouette. Et merci beaucoup aussi à Finishers d'être partenaire du podcast L'Instant Outdoor avec la présentation de ces beaux événements hein, qu'on a partout en France. Merci beaucoup Julie, à bientôt.
Merci, à bientôt.
Voilà, l'épisode est terminé, j'espère qu'il t'a plu. Je t'invite à aller checker NAC, comme je t'en ai parlé au tout début de l'épisode, avec le code PLANETRAIL, PLANETETRAIL. Tu auras moins 15% sur ta commande. Et moi, je te souhaite un très, 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 très bon footing, très bon trajet. Bref, ce que tu es en train de faire, je te le souhaite un très bon. Allez, à bientôt dans un prochain épisode. Bye bye.